groupement de culte et le culte finira plus tôt que d'habitude, normalement. Guy vient de vous donner un scoop, mais j'ai un autre scoop, un meilleur scoop, plus important que la liste de ménage de notre Église. Est-ce possible que quelque chose soit plus important que la liste de ménage de notre Église? Eh bien, on va avancer le... Voilà. J'ai un scoop pour vous. Je sais ce que Dieu veut pour vous l'année prochaine. Je n'ai aucun doute. Alors, ne pensez pas que j'ai fait un rêve, ou un cauchemar, ou que j'ai une révélation. Ben, quoique, une révélation, oui. Quelle est la volonté de Dieu pour vous et pour moi en 2019? Le résumé, c'est que nous soyons tous saints. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça avec certitude que c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi? Deux versets dans 1 Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. La sainteté ou la sanctification. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, je pourrais vous poser des questions. Vous allez me donner quelques réponses. Mais qu'est-ce que ça signifie, la sanctification? Est-ce que quelqu'un aimerait dire un mot qui est un peu synonyme ou une petite phrase qui résume ce que c'est la sanctification? Avant que je vous donne ma définition. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Mis à part. Une bonne réponse. D'ailleurs, toutes vos réponses sont des bonnes réponses. Ce n'est pas comme les jeux télévisés. Hein. Autre chose. La consécration. Être bon comme Jésus. Super, très bien. De plus en plus saint. Toutes ces réponses sont bonnes. Mais ce que Dieu veut pour nous tous, c'est la sanctification. Être de plus en plus saint. Alors, ce qu'on va faire ce matin, ma prédication va finir dans à peu près une heure. Mais elle ne va pas durer une heure, rassurez-vous. Je ne vais pas proposer une pause café au milieu, rassurez-vous. On va mettre quelques chants, quelques lectures, mais mon message proprement dit va se faire en trois temps. D'abord, nous allons définir la sanctification qui a déjà été faite, mais on va le refaire. Ensuite, nous allons décrire la sanctification. Et pour terminer, à la fin, on va décider, j'espère, quelque chose. Définition. Définissons le mot sanctification. Décrivons les étapes vers la sanctification. Et décidons à la fin de vivre dans la sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est la sanctification? Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect être mis à part, être destiné à être saint, c'est-à-dire Dieu a fait ça de façon définitive le jour où nous nous sommes convertis. Dieu nous a mis à part pour lui. Il nous a rangés quelque part pour qu'on puisse le servir, l'aimer et vivre pour lui. C'est quelque chose que nous faisons assez souvent. On met à part des choses. Les membres de ma famille rigolent parce que j'ai acheté les premiers cadeaux de Noël au mois de mai. Je les ai mis à part. Je les ai rangés dans un tiroir. Et heureusement que je n'ai pas oublié dans quel tiroir je les avais rangés. Mais je les ai mis à part pour le jour de Noël. Lorsque le Seigneur est venu dans notre vie, il nous a mis à part pour le servir, pour vivre pour lui. Ça, c'est l'aspect définitif. Mais il y a aussi l'aspect progressif. Vivre dans la consécration, le dévouement, la loyauté, mener une vie sainte, être entièrement à Dieu. Et il ne s'agit pas d'une expérience unique, mais d'un progrès, d'une progression. Le but de Dieu dans la vie de chaque chrétien, c'est de nous rendre, comme disait notre jeune ami là-bas, bon comme Jésus. Beau comme Jésus. Saint comme Jésus est saint. Et on chante parfois le petit cantique, « Tu ressembles à Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir toujours comme toi. Ressembler à Jésus. » Si vous aimeriez une définition encore plus compliquée que celle que je viens de vous donner, voilà une autre définition qui vient d'un livre qui s'appelle « Pour une foi réfléchie ». Œuvre de transformation opérée par l'Esprit Saint dans le croyant, qui l'amène à toujours mieux connaître et pratiquer la volonté de Dieu, à distinguer ce qui est bon et juste de ce qui est mauvais. C'est une définition théologique de ce que c'est la sanctification. Mais, comment est-ce qu'on peut devenir saint? Il y a plusieurs aspects dans ce processus. Et le premier aspect que je veux souligner, c'est l'importance de lire, méditer, apprendre la parole de Dieu. Alors, très très souvent, le dimanche matin, on le dit, on le redit, on le re-redit. Et jusqu'à la fin du monde, le dimanche matin, on va le redire et redire. Parce que c'est tellement important que le chrétien connaisse la Bible. C'est le moyen par excellence pour arriver à la sanctification. Jésus, dans sa prière dans Jean 17, a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Jésus parle à son Père. Il sait que la Bible a un rôle primordial dans le processus de la sanctification. Et puis, dans le psaume 119, « Le témoignage de l'Éternel est vrai. » Il rend sage les humbles. Pardon? Il rend sage l'insensé, il rend sage les humbles. Dans une autre version. Tout à fait. Le psaume 119. D'ailleurs, si vous voulez savoir un résumé de ce que c'est la Bible, lisez le psaume 1, le psaume 19 et le psaume 119 et vous allez trouver plein de choses sur l'importance de lire la Bible. Tenez bien, rappelez-vous bien, le 1, vous ajoutez un 9. Le 19, vous ajoutez un 1, le 119. Trois textes clés qui parlent de l'importance de la lecture de la Bible. Alors, je suis surpris, étonné, parfois interpellé, même choqué, par le manque de connaissance de certains chrétiens de la Bible. Et par le manque de la lecture de la Bible chez certains chrétiens. Je ne vais pas nommer des noms, bien sûr. Je parle de gens quand j'ai fait des voyages à droite et gauche. Mais le diable veut mettre des obstacles devant nous pour que la lecture de la Bible soit quelque chose de vraiment pas prioritaire, même pas secondaire. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre ne s'éloignait pas de toi. Ce qui sous-entend Josué, ne t'éloignez pas de ce livre. Et nous avons besoin de ne pas nous éloigner de la Bible. On a besoin d'une nourriture, d'un régime équilibré. D'ailleurs, j'ai reçu l'autre jour un email avec la proposition de 19 méthodes pour lire la Bible de façon régulière et systématique. Si vous voulez avoir 19 idées pour lire la Bible, vous allez sur le site tout. Pour sa gloire. Et vous allez tomber sur 19 méthodes différentes. Certaines méthodes sont un peu compliquées. Une méthode a été inventée par un prof de maths. Nous aimons bien les profs de maths. Un prof de maths du sud de la France. Et il faut être prof de maths pour comprendre sa façon de lire la Bible. Bon, bref. En tout cas, on a besoin de lire la Bible parce que la Bible contient des trésors. Qu'est-ce que c'est ce drapeau? Un drapeau de pirates. Que cherchent des pirates? des trésors. Eh bien, vous savez, il y a des pirates dans le monde aujourd'hui qui veulent kidnapper des bateaux, qui veulent voler des gens. Mais il y a des pirates autour de nous qui veulent nous empêcher de nous enrichir quand on lit la Bible. Et j'ai 4 pirates avec moi. Est-ce que vous voulez les rencontrer? Et vous allez me dire si ces pirates existent vraiment. Parce que ces pirates-là savent que quand on lit la Bible, il y a des richesses. Et les pirates veulent nous priver de ces richesses. Le premier pirate, amiral, à quoi ça sert? À quoi ça sert de lire la Bible? Il y a toujours cette pensée qui nous vient à l'esprit. Et le diable ne veut pas qu'on lise la Bible. Un deuxième pirate, capitaine, je n'ai pas le temps. Ah ben, j'ai tant de choses à faire, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Troisième pirate, le lieutenant, remettre plus tard. Oh, je vais lire la Bible demain. Et demain arrive, oh, je vais lire la Bible dimanche prochain, c'est le jour du Seigneur. Dimanche arrive, oh, je suis trop crevé, je vais lire la Bible plus tard. Et le matelot, j'aime pas lire. À quoi ça sert de lire si j'aime pas lire? Ces gens-là veulent nous priver des trésors dans la parole de Dieu. Alors la prochaine fois que vous êtes tenté ou que vous croisez un de ces pirates, dites-vous bien, mais je veux lire la Bible parce que je veux rencontrer Dieu et je veux recevoir des richesses de sa part. Ces pirates vont revenir nous hanter dans quelques minutes. Deuxième chose, dans le processus, la lecture de la Bible, c'est une chose. La deuxième chose, c'est prier, prier, prier. Alors, j'ai l'habitude de parler de la prière avec une petite acrostiche, je crois qu'on dit. C-L-A-I-R. 5 composants de la prière. Et si nous respectons ces composants, ça nous permet, je crois, de progresser dans la sanctification. C signifie confession. Quand on prie, on a besoin parfois de confesser des péchés, des bêtises au Seigneur. L, louange. On remercie Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne. A. Oh, ça ne va pas venir. Adoration. Action de grâce, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas ma réponse. Adoration. On loue Dieu pour qui il est. On parle de ses attributs, sa sainteté. Dieu est bon, nous voulons le crier. Il est bon, il est puissant, il est amour. On pense à qui il est. I, c'est intercession, quand on prie pour quelqu'un d'autre. Et R, c'est requête personnelle. Vous voyez, j'ai mis R à la fin, on prie pour soi. Parfois, on prie pour soi tout de suite. Mais c'est bien de penser à autre chose et à d'autres personnes avant de toujours se concentrer sur soi-même. La prière. Mais malheureusement, il y a encore des pirates qui veulent nous priver de la prière. Parfois, on va se dire, mais à quoi ça sert de prier? Un autre pirate, mais je n'ai pas le temps de prier. Un autre va nous dire, mais oh, je vais prier plus tard. Et un autre va nous dire, j'aime pas prier. Lui, il disait tout à l'heure, j'aime pas lire. Et là, maintenant, il dit, j'aime pas prier. Mais vous savez, si nous voulons progresser dans la sanctification, la lecture de la Bible et la prière sont tellement importantes. Nous allons chanter un chant qui est basé un peu sur la A de C-L-A-I-R, adoration. On va chanter un chant qui s'appelle « Qui donc dans le ciel est semblable à toi ?» Et nous allons nommer quelques attributs de Dieu pour dire « Mais Seigneur, tu es unique. Tu es vraiment celui qui est le Tout-Puissant. est celui qui nous aime d'un amour éternel et fidèle. Dieu, pardon, qui donc dans le ciel, 276. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Dieu répond, Dieu est puissant, Dieu nous aime, Dieu protège, Dieu nous nourrit. Et dans ce chant, il y a une question. Et il n'y a pas de réponse. C'est une question rhétorique. Qui te ressemble, Seigneur? Et la réponse, c'est personne. Personne. C'est ça la réponse. Qui ressemble à l'Éternel? Et la réponse, c'est personne. Troisième moyen que Dieu utilise pour nous sanctifier. Ah, il est revenu, lui. Ils ne sont pas très beaux, ces pirates, hein? Troisième moyen que Dieu utilise, les bonnes fréquentations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les bonnes fréquentations? Je vais vous montrer un verset biblique qui est dans le livre des Proverbes. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se trouve non pas stupide, quoique, mais en mauvaise posture. C'est toujours gênant de se trouver en mauvaise posture, quel que soit le contexte. Mais l'idée derrière ce verset, il y a d'autres versets qui disent la même chose, c'est que, il y a un dicton, non? Ceux qui s'assemblent se ressemblent, ou ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est un peu cette idée-là. Le fait d'avoir de bonnes fréquentations. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer sa journée et sa nuit, et sa journée et sa nuit, qu'avec des chrétiens, loin de là. Dieu ne veut pas qu'on vive dans un monastère. Mais l'idée, c'est que nous ayons de bonnes fréquentations et que nous fréquentions, de temps en temps, ou souvent, des chrétiens. Passer du temps avec des frères et sœurs. Et encore, le diable va mettre devant nous des milliers d'obstacles pour nous empêcher de venir au culte, d'assister à l'étude biblique, à la réunion de prière, au groupe des quartiers. Des milliers d'obstacles. Et il nous appartient de les reconnaître et de les enlever pour qu'on puisse fréquenter notre Église, pour qu'on puisse fréquenter, aller avec des frères et sœurs. Bien sûr, il y a des questions de santé qui nous empêchent, des questions de vie de famille, de vie professionnelle qui nous empêchent. Et le Seigneur connaît les bonnes raisons et les comprend. Mais nous devons veiller à ce qu'on aime fréquenter nos frères et sœurs. Parce qu'il y a tant de bénéfices, tant de bénédictions lorsqu'on est avec d'autres chrétiens. On peut se connaître. On peut se comprendre. Et on peut aussi se confier les uns dans les autres. Il y a plein de gens qui ont besoin de parler, d'être écoutés. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin de parler, mais on a besoin d'écouter ceux qui ont besoin de parler. Des bonnes fréquentations. Être avec des frères et des sœurs. Et c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous sanctifier, parce qu'on est tous différents. Et on doit accepter nos différences, que ce soit notre arrière-plan, que ce soit notre accent, désolé pour le mien, je suis né avec, et que ce soit autre chose, peu importe. Mais il s'agit de se connaître, se comprendre et s'accepter. C'est ça, l'amour fraternel. Mais l'amour fraternel nous enrichit aussi. L'autre jour, j'étais dans le métro à Lyon et j'ai vu une publicité, je crois, pour une école de commerce lyonnaise. Et la publicité avait un petit slogan. Je le lis. S'ouvrir, s'enrichir, s'épanouir. Dans une école de commerce. Je crois que moi, j'aurais déprimé dans une école de commerce. Mais dans une église, s'ouvrir, s'enrichir et s'épanouir tout en glorifiant le Seigneur. Donc on a besoin de se fréquenter. Moi j'ai besoin de vous. J'espère que vous avez besoin de moi de temps en temps. Mais on a besoin les uns des autres. Profitons de la communion fraternelle. Et si je n'ai pas envie de venir dans cette église ou dans votre église, le problème n'est peut-être pas forcément chez vous, c'est certainement chez moi. Si j'ai un problème, je dois régler ça avec le Seigneur et avec mes frères et sœurs. Il s'agit de participer à la vie communautaire, à la vie d'église, dans la mesure du possible. C'est pourquoi nous allons chanter un autre chant qui parle de cela. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, le 218. Et après ce chant, quelqu'un va venir. Je crois qu'elle s'est absentée. Donc, Fiona, oui, va venir nous parler de quelque chose qui se passe dans un autre pays, avec un autre peuple, qui parle une autre langue, où Dieu est en train de faire des grandes choses. Des petites choses, mais pour moi, c'est des grandes choses. Et vous allez voir que le fait de savoir ce que Dieu fait dans d'autres milieux, dans d'autres églises, ça nous enrichit. Ça nous ouvre les yeux. Et on peut aussi louer le Seigneur pour sa bonté. Donc, un chant, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. On l'a déjà fait. Et puis après, Fiona va venir nous parler de ce qui se passe dans un pays très loin d'ici.
Bonjour. Alors, dans ma ville à Glasgow, en Écosse, il y a une très grande population d'Iraniens. Il y a beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés à Glasgow. Glasgow a vraiment accueilli beaucoup de gens de Syrie, du Moyen-Orient, même de l'Afrique du Nord. Et j'ai des amis qui s'appellent Wesley et Cindy, qui ont vraiment à cœur ce peuple. Et ils ont commencé dans leur salon une église. Ils étaient 5, 6. Maintenant, ils sont 150, voire 200. En juste 2 ou 3 ans, ça a mais explosé. J'ai des amis qui vont dans cette église et qui m'ont invité parce qu'elle se faisait baptiser. Elle a dit, viens, je veux que tu viennes à mon baptême. Bon, bah, ok. Donc j'y vais. Il y avait 15 baptêmes à la fois. Tous des Iraniens qui sont arrivés, soit qui ont fui à cause de la persécution dans leur pays, soit qui sont arrivés en Écosse et petit à petit se sont fait des amis qui vont à l'église, qui leur disent « Allez, viens, viens, viens découvrir sur Jésus parce que tu ne connais pas Jésus, en Iran, on n'a pas le droit d'en parler. » Et ils arrivent, ils découvrent et ils tombent amoureux de Jésus et ils sont transformés. Et ce couple, Wesley et Cindy, sont américains et c'est vraiment c'est leur passion et ils sont vraiment super, ils ont à cœur ce peuple, ils ont à cœur de les faire découvrir Jésus. Donc ils ont une église, ils se retrouvent dans un autre bâtiment le jeudi soir. Et là, pendant de 6h à 23h, c'est chant, louange, prédication qui est traduit de l'anglais au farsi. Et après, il y a un repas. Alors leur nourriture, c'est génial. Il y a un super repas. Et là, on est 150, 200 et c'est vraiment un esprit de famille. Beaucoup sont venus tout seuls. Il y a beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui sont venus tout seuls, ou des femmes qui fuient leur mari, qui sont ici avec 2, 3, 4 enfants, qui sont seuls. Et quand j'y vais, je sens vraiment cet esprit de famille. Et comme le disait papa, c'est vraiment, ils ont besoin les uns des autres. Parce qu'ils arrivent dans un pays, ils ne connaissent rien. Les Écossais, des fois, sont gentils, mais des fois, ils peuvent être un peu bizarres si tu ne connais pas la culture. Et vraiment, c'est super de pouvoir assister à ça. Et j'y vais régulièrement, peut-être 2-3 fois par mois. Et j'ai vraiment fait des rencontres de gens qui t'apprennent tellement sur la foi. Ils connaissent peut-être pas beaucoup Jésus. Ils sont convertis à 2-3 mois. Mais ils m'apprennent tellement. Et c'est enrichissant. Quand il y a des baptêmes, il y en a 20 à la fois. Il y en a peut-être 3 fois par an. Et ça grandit. Mais j'aimerais bien vous donner 2 sujets de prière, si vous pouvez vous rappeler de ce peuple. Suivant Portes Ouvertes, l'organisation pour les chrétiens persécutés, l'Iran c'est le pays numéro 10 sur une liste de 50 par rapport à la persécution. Donc pas mal de mes amis, j'ai une amie par exemple qui est là-bas avec son fils, qui a fui son mari, parce que son mari, elle s'est convertie, son mari n'était pas d'accord. Ses frères à elle lui disaient, si tu restes chrétienne, on va te tuer. C'est ses propres frères. Et, donc, elle a vraiment besoin d'être encouragée, besoin d'être entourée par tellement de personnes. Donc, j'aimerais que vous puissiez prier, voilà, pour ces gens qui arrivent dans un pays, ils connaissent rien, ils ont tout laissé derrière eux. Et c'est pas forcément par choix, ils ont tout laissé, ils ont plus rien. Ils ont laissé un métier, ils ont laissé une famille, et ils arrivent dans un pays où, pour le pays, ils sont rien, entre guillemets, parce que certains des diplômes sont pas reconnus, donc ils doivent recommencer à zéro. J'ai un ami qui était en Syrie, troisième année de fac de médecine, très bien parti. Son université s'est fait bombarder, donc tout est fini. Il est arrivé en Angleterre, il a dû apprendre l'anglais pendant 2 ans, et après recommencer à zéro la médecine. Donc maintenant, il a 25-26 ans, et il est en médecine en première année. Donc il doit tout recommencer. Et c'est vraiment dur, parce qu'ils sont seuls, ils n'ont pas la famille. Donc voilà. Donc ouais, si vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils soient encouragés, et aussi pour l'Église, parce que c'est super de se convertir. Mais après, il y a tout un cheminement, justement, la sanctification, et il faut qu'il y ait du discipulat, et il faut équiper les gens dans l'Église, et que les Iraniens, entre eux, s'équipent, et qu'ils puissent s'entraider. Parce que les couples missionnaires, ils sont super, mais au bout d'un moment, il faut aussi que le peuple puisse s'auto-aider. Voilà, et je veux juste vous laisser avec l'histoire d'un de mes amis, qui s'appelle Barman, qui est arrivé en 2005 en Écosse, très musulman. Quand je l'ai rencontré, mais vraiment un des musulmans les plus... Je sais pas comment dire en français. Zélé. Ouais, zélé est vraiment très... C'était voilà, c'est l'islam, c'était Allah, et c'était voilà, il y avait que ça. Je respecte les autres, tout va bien. Toi, je t'aime bien, t'es chrétienne, ok, tu respectes ton Dieu, c'est bien. Mais moi, voilà, c'est Allah et c'est que ça. Son premier colloque lui a donné une Bible. Il a pris, puis il a pas regardé, il a laissé sur le côté. Et puis des mois plus tard, il était à la mosquée et il a vu quelque chose. Il m'a jamais dit quoi, mais il a vu quelque chose et s'est dit, je suis pas sûre si je suis d'accord avec ce qui se passe là. Et mais il a laissé passer, et puis il a continué à aller à la mosquée, mais il n'était pas sûr. Et dans mon église, on ouvre l'église le lundi soir pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, peu importe leur religion, peu importe d'où ils viennent. Et il y avait un panneau derrière moi qui était par rapport à la prière. Il m'a juste demandé, en fait, mais c'est quoi, ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi de prier? Donc du coup, j'ai pu expliquer un petit peu. Et puis voilà, et puis il continue sa vie. Et 6 mois plus tard... il m'appelle, il me dit, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, ok. Donc je le vois et il me dit, bah, je suis chrétien. Et en fait, on était au restaurant et il a commandé une pizza au chorizo. Et au début, j'ai pas tilté. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, attends, chorizo, c'est du porc, non? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Et il me dit, non, en fait, je te l'ai pas dit, mais ça fait 6 mois. Il travaille dans un petit magasin pour. Dans un magasin de charité, il fait du bénévolat et quelqu'un a mis un traité, d'où l'importance des traités. Il a mis un traité sur la table et lui, il avait un peu peur, il a regardé, il l'a pris en douce pour que personne d'autre le voie parce qu'il avait vraiment une réputation de musulman, vraiment. Il prend, comme ça, il regarde et c'était le traité d'une église qui était pas loin de chez lui. Bon, il dit, bon, je vais aller voir. Ce jour même, il y va, il rentre dans l'église. Le pasteur, Alan, arrive et lui dit bonjour, bienvenue dans cette église. C'était une étude biblique, je crois, comment tu as connu cette église. Et tout de suite, il dit, je suis musulman, je ne veux pas être chrétien, mais je veux juste apprendre ce que vous faites. Et je veux voir ce que vous faites. Ok, bah, bienvenue, assieds-toi. Ça, c'était en août. En septembre, il y va le premier dimanche matin. Il y retourne le dimanche d'après. Son pasteur lui donne une Bible dans sa langue, parce que lui, il est iranien, mais kurde. Donc, il parle un autre dialecte. Donc, dans son propre dialecte, il a une Bible, il est trop heureux. Et puis, un jour, il voit sur mon téléphone, mon fond d'écran, c'était un verset. Et il me dit, est-ce que ça vient de l'épître de Jean? Je dis, comment tu sais ça? Et du coup, on parle un peu de ça, et il me dit, c'est quoi ton livre préféré de la Bible? Et moi, je voulais un peu l'orienter dans les évangiles, donc j'ai dit, j'aime beaucoup l'évangile de Jean. Et il me dit, ok. Et puis, quelques semaines plus tard, il me demande, mais il y a plusieurs Jean dans la Bible, c'est quel livre dont tu parles? Et je me suis dit, oh wow, il est sérieux, il veut vraiment savoir. Et c'est là, quelques mois plus tard, il me dit, en fait, quand je t'ai posé toutes ces questions, j'allais déjà à l'église, je faisais déjà partie d'un groupe d'études bibliques, mais je voulais faire mon chemin dans une église et enfin vraiment juste faire mon cheminement et c'était vraiment enfin ce soir-là j'étais scotchée parce que on ne sait jamais ce que le Seigneur il peut faire. Il était en train de travailler pendant des mois dans le cœur de cet homme. Moi j'avais aucune idée, on était plein d'amis à prier pour lui mais on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et le mois prochain, enfin là en janvier, il se fait baptiser dans son église. Dans son église, qui est une église écossaise, il y a tout un groupe d'Iraniens aussi. Et ils se font traduire le message dans leurs oreilles par des oreillettes. Et il a tout un ministère auprès de ces gens. Il les encourage, il fait partie d'études bibliques. Et maintenant, il essaye aussi, il évangélise les autres autour. Et il évangélise d'autres de nos amis qui sont aussi soit musulmans, soit pas musulmans, juste ils sont athées. Il y en a beaucoup qui ont rejeté l'islam en fait en voyant ce qui se passe dans le pays là-bas. Ils se disent non, moi je veux pas avoir affaire à ça, il n'y a pas de Dieu, c'est fini. Et que ce soit n'importe quelle religion, ils en veulent pas. Mais une phrase qui m'a frappée dans son témoignage quand il me l'a redit, c'était « J'étais dans le noir et la seule chose qui m'a donné la lumière, c'était Jésus. » Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc s'il vous plaît, priez pour l'Iran. Merci.
Amen. Ça fait du bien. La communion fraternelle. Quatrième moyen à notre disposition pour grandir en sainteté, c'est de méditer la vie et la mort de Jésus. La vie et la mort. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour donner la vie en abondance à mes brebis. Et en pensant à Jésus, lui, le juste, il est mort pour nous, les injustes. Lui, le bon, est mort pour nous, les mauvais. Et en pensant à la vie de Jésus, on peut penser à ses paraboles, on peut les lire, mais on peut réfléchir, se rappeler. Il y a une quarantaine de paraboles dans Matthieu, Marc et Luc. Le fils prodigue, la pièce perdue, le juge inique, le pharisien, le publicain. On peut se rappeler ces paraboles. Et ça nous fait du bien de penser aux paraboles de Jésus. Ça nous fait du bien aussi de penser aux prières de Jésus. Quand Lazare, son ami, est mort, Jésus prie. Quand il est avec ses disciples qui s'endorment, Jésus prie. Quand Jésus sort, après avoir pris la Sainte Cène, il prie pour ses disciples présents et pour ses disciples futurs, pour nous, dans Jean 17. Il y a aussi les promesses de Jésus qu'on peut méditer. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant de promesses que Jésus donne. Et il dit, mais si je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus soif, n'aura plus faim. On a tout ce qu'il nous faut en Jésus-Christ, grâce à ses promesses. Et puis ses paroles, les paroles qu'il a dites aux uns et aux autres, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Ne crains pas, crois seulement. Et même ses dernières paroles, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Tout est accompli. Entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Mère, voici ton fils. En s'adressant à Marie, en parlant de l'apôtre Jean qui était à côté. Voici ta mère. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça fait du bien de penser, de méditer, de se rappeler les paroles de Jésus et de dire, mais Seigneur, tu es venu pour moi. Ça nous aide à nous oublier et à penser à lui. Parfois, on est trop nombriliste. Mais quand on pense à lui, on oublie son propre nombril et on pense à ses paroles, ses prières, ses promesses. Ces paraboles, Jésus est venu pour nous sauver. Et un des moyens qui nous aide à grandir en sanctification, c'est prendre la scène. en souvenir de lui. Il est venu pour nous racheter. On va chanter un chant avant que nous participions à la scène. Ce chant s'appelle « Un si grand miracle ». Il y a eu beaucoup de miracles dans la vie de Jésus, dès la conception. Mais un si grand miracle, c'est que Jésus est venu pour nous. Il s'agit du numéro 518. Que Dieu peut utiliser pour notre sanctification, après la lecture de la Bible, la prière, l'Église, la communion fraternelle, le fait de méditer la vie et la mort de Jésus, un autre moyen à sa disposition, les aléas de la vie. Le Seigneur peut se servir de tout ce qui nous arrive pour nous conduire sur le chemin de la sanctification. Martin Luther, le réformateur allemand, parlait souvent de quatre aspects. Affliction, épreuve, difficulté, lutte. Tout cela peut contribuer à notre sanctification. Et lui, il en a eu des afflictions, des épreuves, des difficultés et des luttes. Mais il savait que Dieu était maître de sa vie et pouvait utiliser ces choses-là pour sa sanctification. On dit souvent que les épreuves de la vie peuvent nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de Dieu. Il y a 10 jours, j'étais à un enterrement en Bretagne d'une jeune femme de 26 ans. Elle s'est mariée il y a 3 ans. 6 mois après son mariage, cancer des ovaires. Opération, chimio, tout ce qui s'ensuit. Et puis la maladie est revenue et elle est décédée. 26 ans. Chrétienne. Très fidèle dans son église. Mariée depuis 3 ans. À son enterrement, ses 2 frères, sa sœur, ont participé en parlant de la vie de cette jeune fille, cette jeune femme plutôt, pardon. Et puis son mari a pris la parole. Benjamin, un garçon que nous connaissons depuis qu'il avait 5-6 ans. Et Benjamin a dit ceci. Sa femme s'appelait Alwyn. Quand ma femme a su qu'elle était malade, elle n'arrêtait pas de dire que Dieu était bon. Quand elle a su qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, elle croyait que Dieu était, malgré tout, bon et fidèle. Quand elle a perdu 6 cheveux, et des gens ici, dans la salle ce matin, l'ont vu sans cheveux. Elle n'a jamais mis de perruque, je crois bien. Elle disait, mais le Seigneur est bon et fidèle. Quand la maladie est revenue, il y a 6 mois, 9 mois peut-être, elle savait que Dieu était bon. Et la veille de sa mort, elle parlait de Dieu qui était bon et fidèle. Et elle savait qu'elle allait être avec lui. Une fois qu'elle ne pouvait plus respirer. Sanctification des aléas de la vie. Souvent, on veut les fuir. C'est humain. Mais Dieu peut s'en servir pour notre bien et pour le bien des autres. Et je peux vous dire, les 300 personnes qui étaient présentes à son enterrement, pour beaucoup, ils ont dit, mais cette fille-là, quel modèle, quelle foi, quel témoignage. Elle n'en a pas voulu à Dieu. Elle aimait Dieu jusqu'à la fin. Elle savait que Dieu était un peu comme le vigneron. Et Dieu est un vigneron. Et il veut tailler sa vigne. Et parfois, ça fait mal. Et Dieu peut utiliser ça pour notre sanctification. Alors, je termine. Décidons, après définissons et décrivons. Est-ce qu'on veut accepter le processus? Vous ne pouvez pas répondre pour moi. Je ne peux pas répondre pour vous. Je ne vais pas vous demander de lever la main pour dire « Oui, j'accepte ». C'est personnel. Mais la sanctification est importante. Très importante. Et ce verset-là, Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous, avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. En d'autres mots, on peut dire que la sanctification est en quelque sorte la preuve qu'on est vraiment converti. Parce que sinon, on ne verra pas le Seigneur. Un autre verset, c'est une prière de l'apôtre Paul. Que Dieu affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul savait que la sanctification ne venait pas de nous. C'est pour ça qu'il prie Dieu. Que Dieu vous affermisse. Que Dieu vous aide à devenir de plus en plus saint. La prière des autres. J'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin des prières des uns des autres. Mais priez aussi soi-même. Seigneur, aide-moi à accepter ce processus. Aide-moi à accepter que tu es le vigneron. Que tu es le potier. Je ne suis que l'argile. Je n'ai pas le droit de te dire de me faire un beau vase qui fait plaisir à tout le monde. Dieu décide ce qu'il va faire avec l'argile qu'il a dans les mains. Et tous les moyens sont bons. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, je veux bien accepter que tu fasses en moi ce que tu veux. Un autre verset, dans Philippiens 2, verset 13. Dieu lui-même œuvre en nous. Sa bienveillance suscite en nous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Dieu œuvre en nous parce qu'il est plein d'amour. Et il veut nous sanctifier. Il veut agir en nous. Mais c'est à nous de le laisser agir. Est-ce que nous voulons continuer ou commencer ce processus de la sanctification? La balle est dans notre camp. C'est à nous de jouer. C'est à nous de dire dans notre cœur, Seigneur, tu es le potier. Je suis l'argile. Tu es le vigneron. Je suis la vigne. Je propose quelques instants de silence où chacun dans son cœur peut dire ce qu'il veut dire au Seigneur. Quelques instants de prière silencieuse avant le mot de la fin. Non, nous ne savions pas ce qui allait nous arriver en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes dans le flou total pour l'année prochaine. Mais nous te prions de nous aider tous, ici, à accepter déjà que Jésus devienne notre Sauveur, mais aussi à accepter ce processus de la sanctification. Quel que soit le prix, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons que tu changes notre cœur. Donne-nous le courage et la foi afin de pouvoir te demander dans notre cœur de nous changer. Amen. Nous allons terminer ce culte avec un chant. Change mon cœur, Seigneur. Je pense que je n'ai pas donné le numéro au musicien. Je m'excuse pour ça. 369. Merci. Change mon cœur, Seigneur. Mais avant de chanter ce chant, qu'on va chanter tous comme une prière. Si vous ne voulez pas le chanter comme prière, ne le chantez pas. Ou vous pouvez le dire dans votre cœur. Mais avant de chanter ce chant, certaines personnes savent qu'il m'arrive, quand je prends la parole le dernier dimanche de l'année, de vous donner une petite devise pour l'année suivante. Je crois qu'à la fin de 2012, c'était pour 2013 que notre vie lui plaise. Pour 2014, c'était plus compliqué. Mais la devise que je vous propose, suite à ce thème de la sanctification, que notre vie ne soit pas du bluff en 2019. Si vous ne comprenez pas ce mot bluff, allez voir quelqu'un qui est très intelligent parmi nous ce matin. Mais on ne veut pas faire du bluff. On veut être sincère. Et pas qu'en 2019, mais 2020 aussi, et les années suivantes. Donc, chantons ce chant, « Change mon cœur, Seigneur », comme une prière pour clore ce dernier culte de 2018. Merci, et que Dieu vous bénisse 2018 et pour la nouvelle année. Merci.